y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Nous apparaissons et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons et vive la révolution.
Et ce n'est pas un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Assez, c'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy en sí, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros en sí, DJ B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza?
Bonsoir, vous êtes sur Langue de fronde. 106.3 FM sur FPP. Et ce soir, l'équipe se retrouve.
N'est-ce pas?
Tant bien que mal. Et on va aborder la deuxième partie d'une restitution du livre d'Angela Davis sur blues et féminisme noir. Donc on abordait le mois précédent les questions autour du blues, des blueswomen, notamment Ma Rainey et
Bessie Smith.
Et là, on va plutôt s'intéresser à Billie Holiday. Et voilà, en l'occurrence.
Et donc, c'est toujours autour d'Angela Davis qui a écrit sur ces trois femmes. Et aussi, cette fois-ci, avec en complément l'autobiographie que Billie Holiday a écrit, qui s'appelle Lady Sings the Blues, qui aurait dû porter un autre nom. Mais ça, Pauline nous en parlera après. Et pour commencer, autour de Billie Holiday, un petit extrait du début de son autobiographie, où elle raconte sa rencontre avec la musique. Elle a à ce moment-là 5 ou 6 ans et elle travaille comme femme de ménage à droite à gauche. En tout cas, quand je monte à bicyclette ou que je frotte le carrelage sale d'une salle de bain, j'adorais chanter tout le temps. J'aimais la musique. Dès que je pouvais aller en entendre quelque part, j'y allais. Alice Dean dirigeait un bordel au coin de la rue tout près de chez nous et je faisais régulièrement les courses pour elle et pour les filles. J'avais le sens du commerce à l'époque. Je ne faisais jamais une commission pour quelqu'un à moins de 5 ou 10 cents. Mais pour Alice et les filles, j'aurais couru n'importe où. Et je lavais leurs cuvettes, leur sortais le savon Lifebuoy et les serviettes. Quand Alice venait pour me payer, je lui faisais cadeau des sous, pourvu qu'elle me laisse monter dans son grand salon, écouter Louis Armstrong et Bessie Smith sur son phonographe. Un phonographe coûtait très cher à cette époque, et dans le voisinage, il n'y en avait nulle part ailleurs que chez Alice. C'est là que j'ai passé des heures merveilleuses à écouter Pops et Bessie. Je me souviens de l'enregistrement de West End Blues par Pops et à quel point il m'avait soufflé. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un chanter sans paroles. Je ne savais pas qu'il chantait tout ce qui lui passait par la tête quand il oubliait les paroles. Ba 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 ba. Et tout le reste avait des tas de sens pour moi, autant que d'autres mots que je ne comprenais pas toujours. Ça changeait, suivant mon état d'esprit. Le même sacré disque me rendait tantôt si triste que je pleurais comme une madeleine, tantôt si heureuse que j'oubliais combien j'avais payé cher cette séance dans le salon. Mais maman ne voyait pas d'un bon œil sa fille fréquenter la maison du coin de la rue. Et de plus, elle ne comprenait pas pourquoi je ne me ramenais pas de fric à la maison. Elle soupirait. Je connais Eleonora, c'est mon nom de baptême. Elle ne travaille jamais pour rien. Quand elle a découvert que cet argent durement gagné servait à louer le salon d'Alice pour écouter du jazz sur son phonographe, elle n'en est pas revenue. Je ne crois pas être la seule à avoir entendu du bon jazz pour la première fois dans un bordel. Je n'ai jamais essayé d'en tirer des conclusions. Si j'avais entendu Louis et Bessie à une grande fête scout, j'aurais aimé ça tout pareil. mais beaucoup de blancs ont entendu du jazz pour la première fois dans des lieux comme chez Alice, et ils ont contribué à l'appeler « musique de bordel ». Ils oublient comment c'était à l'époque. Un bordel était à peu près le seul endroit où les noirs et les blancs pouvaient se rencontrer normalement, car, bon Dieu, ça n'était pas dans les églises qu'ils pouvaient se coudoyer. À Baltimore, les boîtes comme chez Alice étaient les seuls endroits assez chics pour avoir un phonographe et assez à la page pour passer les meilleurs disques. Ça, bon sang, j'en suis sûre. Si j'avais entendu les voix déchirantes de Pops et Bessie par la fenêtre du salon d'un pasteur, j'aurais fait des courses à l'œil pour lui. Mais à l'époque, il n'y avait pas à Baltimore de prêtre comme le prêtre, comme le père Norman O'Connor de Boston qui adore le jazz et que ses nombreux paroissiens écoutent maintenant présenter les disques à la radio. Voilà pour une petite présentation de comment Billie Holiday arrive à la musique et le contexte un peu dans lequel ça s'inscrit. Et puis sinon, on avait écouté une petite un extrait, enfin regardé et écouter un extrait d'un film. Je ne sais pas si, Gab, tu veux dire deux mots de cette musique que tu as extraite d'une vidéo.
Eh ben, tout simplement que c'est un film qui s'appelle... Comment s'appelle-t-il déjà?
Nous ne savons plus.
C'est un film sur la biographie de Billie Holiday.
Non, c'est un film sur le blues à la Nouvelle-Orléans. Non, c'est pas
ouais,
ça
c'est une fiction. Ouais.
C'est plutôt une fiction dans laquelle elle joue le rôle d'une domestique noire l'employeuse blanche reçoit des amis à qui elle chante du jazz et à qui elle explique un petit peu le jazz.
Voilà, c'est en anglais, mais ça dure pas longtemps et puis ça introduit tout de suite la musique. Et peut-être pour lancer une citation de Buzzy Jackson dans un livre qui s'appelle « Chanteuse de blues » au pluriel. « À l'origine, la chanteuse de blues est une femme de mauvaise vie, bien dans sa peau. » Et je pense que du coup, Angela Davis la reprend aussi dans son livre, aussi bien pour Bessie Smith, Ma Rainey que Billie Holiday, qu'on va entendre dans sa langue.
Wait, who's that, Mother?
That's Endy, your maid, and I've asked her not to sing those songs in this house.
But she sings like an angel.
Well, there's more devil than angel in that music.
Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart?
Endy, didn't I tell you not to let me catch you at that piano again?
I'm sorry, ma'am. If I'd have heard you coming, I wouldn't have let you catch me.
Well, Endy, you're incorrigible. This is Miss Merrily.
Hello, Endy.
Welcome to New Orleans, Miss Merrily.
Oh, thank you.
Oh, let me fix you a good hot tub, and it will melt away all your tiredness.
Wonderful. I'll send you up some nice hot tea, darling. Welcome home. Come on, Miss Eulalia.
Endy?
Yes, ma'am?
That music you were playing, what was it?
I just can't seem to remember not to play it, Miss Merrily. It was a kind of little old blues tune.
Blues? Do you play the blues only when you're blue?
No, ma'am. They just call it blues. We play it when we're blue or when we're happy, even when we're in love. Right now, I'm in the latter.
Are you really, Endy?
Yes, ma'am. There's no one in the world like my Satchmo.
Satchmo?
That's short for Satchmo. His real name is Louis, but I like Satchmo best.
How does the end of that song go?
Miss Merrily, are you trying to put ideas into my head?
Please do, but softly.
And there's something more. I miss the one I care for. More than I miss New Orleans.
Help us out tonight.
What do you think I'm here
for? Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? Getting stronger the longer I stay away. Miss the moss-covered vines, the tall sugar pines where mockingbirds
used to say, and I'd like to see the lazy Mississippi a hurrying to spring. The Mardi Gras, the memories of Creole tunes that fill the air. I dream of oleanders and dew, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more, I miss the one I care for more than I miss New Orleans.
Voilà, c'était la chanson New Orleans qui est chantée et jouée par Billie Holiday dans ce film dont on a retrouvé le nom, Gab, et qui s'appelle donc tout simplement New Orleans, qui a été fait dans les années 40. Et où, donc, dans ce que vous venez d'entendre, c'est Billie Holiday qui joue effectivement une domestique noire et des blancs qui arrivent comme ça, qui s'apprêtent à s'installer dans la chambre où, qu'elle est censée avoir préparée. Puis en fait, quand ces blancs arrivent, elle est au piano en train de chanter et elle a cette toute petite discussion qu'on a entendue au début, où cette femme blanche finalement lui dit non, remets-toi au piano et puis dis-moi ce que c'est que le blues.
Et voilà, et on va continuer par un petit extrait, donc toujours de la même autobiographie de Billie Holiday, qui raconte un petit peu ses débuts.
Et alors, pour situer juste cet extrait, elle va se faire expulser de son logement avec sa mère, et donc elle part désespérée pour trouver quelque chose, quoi que ce soit, qui évite l'expulsion.
Un jour que l'échéance était passée, elle a reçu un arrêt d'expulsion. On était au plus gros de l'hiver et elle était incapable de marcher. J'ignorais qu'on avait de telles pratiques dans le Nord. Le Sud n'était pas reluisant, mais on ne nous y aurait jamais jetés à la rue. La veille du jour prévu pour l'expulsion, j'ai déclaré à maman que j'étais prête à voler, à tuer, à faire n'importe quoi, mais que je ne les laisserais pas faire. Il faisait un froid de canard ce soir-là et je suis sortie sans manteau. J'ai descendu la 7e avenue, de la 139e à la 133e rue, entrant dans toutes les boîtes à la recherche d'un boulot. À cette époque, la 133e rue était le haut lieu du jazz, comme la 52e l'a été par la suite. Ça swingait partout, dans les boîtes ouvertes jusqu'à l'aube, dans celles qui fermaient à heure fixe, dans les restaurants, les cafés, au moins une douzaine par pâté de maison. Quand je suis arrivée au Pods and Jerry's, c'était ma dernière chance. Je suis entrée et j'ai demandé au patron. J'ai dû avoir Jerry. Je lui ai dit que j'étais danseuse et que je voulais faire un essai. Je connaissais en tout et pour tout deux pas, le time step et le crossover. Je ne savais pas ce que c'était qu'une audition, mais c'est ça que je voulais. Jerry m'a désigné le pianiste et m'a dit de danser. J'ai commencé une catastrophe. J'ai rabâché sans arrêt mes deux pas jusqu'à ce qu'ils glapissent. Ça va durer longtemps ? Ils allaient me foutre à la porte, mais je les ai suppliés de m'embaucher. Alors le pianiste a eu pitié de moi. Après avoir écrasé sa cigarette, il m'a bien regardé et m'a demandé « Dis-moi, tu sais chanter ?» J'ai répondu « Bien sûr que je sais. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ?» Je chantais depuis toujours, mais c'était pour le plaisir et je n'avais jamais pensé pouvoir faire du fric avec ça. À l'époque, on n'entendait guère parler des chanteurs, excepté Paul Robeson, Julian Bedsoe ou des gus de ce genre. De plus, c'était la mode du style Cotton Club, où une quantité de super nanas n'avait rien d'autre à faire qu'à se montrer, se trémousser un peu et ramasser les sous sur les tables. Je croyais que c'était la seule façon de se faire des ronds et il me fallait $45 avant le lendemain pour éviter à maman d'être mise à la rue. Alors j'ai demandé qu'on joue « Traveling All Alone ». C'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'éprouvais alors et de ce qui avait dû toucher les gens. La boîte entière a fait silence. Si quelqu'un avait laissé tomber une épingle, ça aurait fait l'effet d'une bombe. Quand j'ai eu fini, ils pleuraient tous dans leur verre et j'ai ramassé $38 par terre. À la fin de la nuit, j'ai partagé avec le pianiste et j'ai eu $57 à ramener à la maison. En sortant, j'ai acheté un poulet entier et des haricots cuits au four. Maman les adorait. Et j'ai couru jusqu'à la maison. Quand je lui ai montré l'argent du loyer, en lui affirmant que j'avais un boulot régulier de chanteuse à $18 par semaine, elle n'en croyait pas ses yeux. Sitôt qu'elle a pu se lever, elle est venue voir ça de ses yeux et est devenue mon meilleur supporter. Est-ce que du coup, on passerait pas la chanson « Traveling All Alone » pour justement se mettre un petit peu dans l'ambiance?
«
and all alone. Feet are tired like heavy stone. Traveling, traveling, all alone. Who will see and who will care about this load that I must bear? Traveling, traveling, all alone. Prayers I send to heaven above about my burdens, wars, and love. Head bowed down with misery, nothing now appeals to me. Traveling, traveling, all alone.
Donc voilà, donc on a écouté la belle voix de Billie Holiday et maintenant on va s'interroger un petit peu sur son répertoire musical, parce qu'une des originalités de Billie Holiday par rapport aux blueswomen qui l'ont précédée, c'est qu'elle n'a pas trouvé l'inspiration dans la culture noire, elle n'a pas composé elle-même ses chansons non plus. Elle a été plutôt du côté de la reprise hein, d'un répertoire musical qui existait déjà, un répertoire commercial, hein, de chansons blanches, dépolitisées, à l'eau de rose, voire assez caractéristiques d'une époque où la domination masculine règne sans partage, en tout cas d'après Angela Davis, plutôt sur la musique blanche, puisque dans la musique noire, elle est fortement contestée par les blueswomen. Mais donc dans les textes que qu'interprète Billie Holiday, on est plutôt dans ce répertoire commercial qui s'appelle le Tin Pan Alley. Donc le Tin Pan Alley, au départ, c'est le nom d'un quartier dans lequel s'étaient établis à New York des éditeurs de musique et des paroliers. Et par extension, c'est devenu le nom d'un répertoire musical, celui de la musique populaire des États-Unis, de la fin du 19e jusqu'à peu près au milieu du 20e. Le Tin Pan Alley, c'est caractéristique de cette époque où la chanson, elle se vend surtout sous forme de partition, sous forme d'écrit, et pas encore sous forme de disque. À partir des années 30, le Tin Pan Alley décline, puisque les ventes de partitions déclinent, tandis que se popularise ce nouvel objet dont on a parlé tout à l'heure, le phonographe. Et qu'apparaissent à la fois les disques qui sont achetés par les individus, mais aussi par les bars pour mettre dans les jukebox, et puis aussi où se développe la radio. Et
juste pour dire, le Tin Pan Alley, ça veut dire donc l'allée des casseroles en métal. Et je crois que ça avait ce nom-là parce que les pianistes tapaient tellement fort sur leur clavier que ça faisait une espèce de bruit de casserole.
Donc en tout cas, c'est assez caractéristique d'un genre musical où il y avait à la fois des chansons à l'eau de rose, des chansons à boire, et puis par exemple un tube qui s'appelait Moody Teeny Moo, je crois, qui est l'équivalent de Amstram Gram, hein, dont on voit un petit peu le niveau de ces chansons. Et donc le Tin Pan Alley, voilà, donc il décline à partir des années 30 et il disparaît dans les années 50 quand la musique, enfin la chanson à l'eau de rose est supplantée par le rock and roll. Voilà, donc pour situer un petit peu Billie Holiday, elle commence sa carrière dans les années 20-30, elle enregistre son premier disque en 1934. Donc à un moment de spécialisation professionnelle de la musique populaire, on sépare les professions entre les compositeurs d'un côté, les paroliers d'un autre côté, les interprètes, les producteurs. Et donc alors à la fois d'un côté des gens parfois très talentueux écrivent au kilomètre des chansons uniformes, standardisées selon ce qui est considéré comme vendable, puisque l'unité de mesure du succès du Tin Pan Alley, c'est le nombre de copies de la partition vendue. Et dans ce contexte de marchandisation hein, de la musique, pour devenir musicienne professionnelle, Billie Holiday, elle a dû accepter hein, d'interpréter ce type de chansons, qui lui était imposée par le marché de la culture populaire. Elle accepte donc un matériau un peu conventionnel, insipide, sexiste. Et en même temps, toute son originalité, elle l'oriente autour de la manière dont elle va l'interpréter, hein, en ouvrant, ça a été dit, sur non plus sur le blues, mais sur le jazz moderne. Et ce que remarque Angela Davis, c'est qu'elle va devoir faire preuve d'un pouvoir de transformation et qu'elle va puiser dans la culture noire pour faire ce travail de transformation du matériau du Tin Pan Alley.
Là, tu voulais nous dire une petite citation.
Et ben juste avant d'arriver à cette culture dans laquelle elle puise, et justement sur ce que tu racontes, Gab, et ce que Angela Davis écrit sur cette façon d'enregistrer différente, elle raconte, alors son autobiographie c'est toujours réécrit comme une autobiographie, mais elle compare justement ces différentes façons d'enregistrer le rapport à la partition en racontant les tout débuts de sa carrière musicale. Je pense souvent à notre façon d'enregistrer à l'époque. En sortant du car, après un trajet de 800 km, on filait directement au studio sans partition, avec du café et quelques sandwichs. Avec Lester, on buvait un truc qu'on avait baptisé « top and bottom », moitié gin, moitié porto. Je disais « qu'est-ce qu'on fait ? Deux mesures ou quatre mesures d'intro ?» On me répondait « faisons quatre mesures, un chorus, un autre, encore un et la moitié d'un. » Alors j'annonçais « Lester, tu prends les 8 premières mesures. » Après, c'était le tour de Harry Edison ou Buck Clayton pour les 8 suivantes. J'ajoutais « Joe, juste les balais, pas trop de cymbales. » Maintenant, avec leur putain de préparation et leurs arrangements sophistiqués, vous avez 10 minutes pour graver 8 faces et il faut lécher le cul à tout le monde. Quand j'ai enregistré Night and Day, je n'avais jamais entendu cette chanson de ma vie. En plus, je ne lis pas la musique. Eh bien, je suis entrée, Teddy Wilson me l'a joué et ça s'est fait. Avec des artistes comme Lester, Don Bryce, Benny Carter et Coleman Hawkins, il se passait toujours quelque chose. Ils n'ont jamais eu besoin de préparation.
Donc voilà, en fait, ça nous met un petit peu dans l'ambiance du travail de Billie Holiday. Dans son livre, Angela Davis s'y attache, on s'y attache assez peu. Elle insiste énormément, donc comme Gab vient de le dire, sur l'interprétation de ces chansons d'amour superficielles et dans toute la transformation esthétique qu'opère Billie Holiday. Angela Davis parle d'une capacité à subvertir ces représentations sexistes et racistes de femmes amoureuses. Et donc tout au cours de, elle essaye de soutenir cette thèse avec différents exemples donc de chansons, dont une qui s'appelle You're My Thrill, qui parle de dépendance que peut induire l'attraction pour une autre personne. On va peut-être d'abord l'écouter et puis on va en parler après.
When I look at you, 'cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases. I just go to pieces when I look at you. 'Cause you're my thrill. Nothing seems to matter. Here's my heart on a silver. Where's my will? Why this strange desire that keeps mounting higher when I look at you? I can't keep still. You're my why this strange desire that keeps mounting higher when I look at you. I can't keep still. You're my thrill.
Nous revoilà donc sur FPP 106.3, sur notre deuxième partie sur le livre d'Angela Davis, Blues et féministe noire. On continue avec Billie Holiday. On vient d'écouter donc You're My Thrill.
Oui, You're My Thrill. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une chanson qui est très caractéristique de la manière dont Billie Holiday va reprendre et retravailler ce matériau de la chanson populaire du Tin Pan Alley. C'est-à-dire qu'elle puise à la fois dans l'histoire, hein, dans la culture noire, dans le rapport à la musique, dans le rapport à la langue qui est caractéristique des Africains-Américains. Puisque c'est une communauté qui a dû s'approprier l'anglais dans un contexte de répression, puisque c'était les esclaves de même langue maternelle étaient séparés pour ne pas parler leur langue. Donc c'est dans un contexte de répression culturelle et ils ont dû inventer un rapport particulier à la langue, inventer des nouvelles significations pour pouvoir se parler sans être compris du maître blanc. Et ce rapport particulier à la langue, dans lequel ni la parole ni la signification ne vont de soi, c'est un rapport qui a été transmis et qui a servi de base pour le blues. Et d'une certaine manière, Billie Holiday, la manière dont elle retravaille le matériau de la chanson du Tin Pan Alley, bien sûr, elle ne change pas la signification de la langue, elle n'a pas accès à cette inventivité, à cette richesse de la langue, mais elle les retravaille d'une manière où l'interprétation lance un défi aux paroles, lance un défi à l'ordre social que ces paroles décrivent par le biais de la musicalité. Elle entre en tension, voire en contradiction avec ces paroles. C'est particulièrement visible dans You're My Thrill, puisque les paroles parlent d'une passion passagère d'une femme pour un homme qui la met dans la dépendance, qui la fait perdre tout contrôle d'elle-même. À l'inverse, l'interprétation est extrêmement disciplinée, extrêmement contrôlée, et Billie Holiday a beau chanter la dépendance du fait de l'attraction pour quelqu'un d'autre, son interprétation crée une place pour l'autonomie, pour le contrôle. Elle crée une critique de l'idée des femmes qui perdent le contrôle d'elles-mêmes lorsqu'elles sont passionnément amoureuses. Donc quelque part, d'après Angela Davis, l'interprétation juxtapose, exprime un conflit entre les représentations de la sexualité des femmes dans la culture musicale populaire blanche, du Tin Pan Alley d'une part, et dans la tradition blues d'autre part, entre négation de l'agir féminin du côté du Tin Pan Alley et affirmation de l'autonomie érotique et de la subjectivité des femmes dans la tradition blues.
Oui, ça, Angela Davis en parle beaucoup, le fait que, étant donné que Billie Holiday vient après justement les chanteuses de blues, comme on a déjà vu avec Bessie Smith, qui, elle, s'exprimait donc dans la langue anglaise noire, qui avait déjà, comme on l'a montré, enfin comme on l'a expliqué le mois dernier, elle montrait beaucoup toutes les expériences des femmes noires, comment elles vivaient au jour les jours. Du coup, tout le public noir avait déjà incorporé un peu toutes ces expériences de femmes noires. Et là, Billie Holiday, dans ses textes, elle montre en fait qu'est-ce que c'est que la culture blanche populaire. Et donc, à travers en fait avec ces deux représentations qui sont très différentes, du coup, elle, en venant après, en fait, elle peut faire, à travers ces interprétations, elle peut montrer un peu le conflit qu'il y a entre les différents types d'expériences noires, blanches, et faire passer un petit peu les ambiguïtés et de ces chansons. Je voulais aussi parler d'une autre chanson que moi je trouvais, enfin au niveau de You're My Thrill, moi je trouvais ça pas évident, peut-être parce que je parle pas si bien anglais que ça, puis c'est difficile de comprendre les intonations. Et Angela Davis m'avait un peu plus convaincue avec le morceau Lover Come Back to Me, où elle montre bien qu'au niveau de l'interprétation, il y a vraiment de la malice et c'est assez gai et ça va un peu à l'encontre de, du texte. Je vous expliquerai après. On va l'écouter maintenant.
High above, the moon was new, and so was love. This eager heart of mine was singing, lover, where can you be? You came at last. Love had its day, that day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. When I remember
c'était Lover, Come Back to Me, un petit morceau pour montrer que c'était que sous les airs de du texte qui dit quand même que l'amour, il faut que mon amour, il faut que tu reviennes près de moi. Elle dit quand même de façon très légère qu'elle est sous la nuit, qu'il fait beau et donc elle le dit de façon assez moqueuse. Et ce que dit Angela Davis, c'est qu'en fait, ça veut surtout dire « reste loin, je suis en train de jouir de ma liberté et c'est vraiment sympa ». Voilà, donc la voix invoque délivrance et libération. Donc pour revenir un petit peu à la vie, après ces moments d'explication, d'interprétation, revenir à la vie de Billie Holiday qui était assez difficile. Elle est assez chaotique. Et elle a dû beaucoup se battre. Enfin, elle a dû pas mal se battre au niveau du racisme, et notamment quand elle est descendue faire ses concerts dans le sud, elle avait des gros problèmes pour. Elle était avec un orchestre blanc et elle avait des gros problèmes pour faire ses chansons. Et Cla avait une petite anecdote à nous lire.
Oui, parce que elle dit d'ailleurs à un moment donné dans son livre, moi je suis la fille de l'Ouest façon 1937. Avec 16 musiciens blancs. Donc elle se déplace beaucoup en tournée avec beaucoup de musiciens blancs derrière. Et là, elle raconte une expérience. Donc quand elle arrive à Saint-Louis, dans un hôtel ou en tout cas un lieu pour jouer. Et là, le propriétaire de l'hôtel arrive et dit, en s'adressant aux autres, donc aux musiciens blancs, qu'est-ce qu'elle fait là, cette négresse ? Je n'ai pas besoin de nègre pour nettoyer ici. Et un peu plus tard, donc elle s'énerve et elle lui dit, écoute, Artichaut, donc le musicien qui est avec elle, a été très chic avec moi. Je sais que tu ne veux pas de nègre, même pour nettoyer ton hôtel. Mais je suis noire et tu peux m'appeler comme tu voudras. Je te propose un marché. Tu nous laisses commencer dans ce dancing de merde et si je ne bats pas tous les records de succès, tu pourras me foutre dehors avec Artie et tous les autres. Tu veux parier ou pas ? Il n'a pas su que répondre. Il ne voulait pas parier, mais il voulait encore moins décamper dans sa chaise roulante. Un certain nombre de personnes assistaient à la scène et commençaient à murmurer que c'était un dégonflé s'il n'acceptait pas le pari. Il a dit oui et on a joué. Je savais que ce soir-là, j'étais responsable de l'avenir de tout l'orchestre. Aussi, je me suis défoncée. J'ai chanté d'abord « I cried for you », puis « Them there is, eyes », et j'ai terminé par « What you gonna do when there ain't no swing ». Le swing, c'était la grande mode. À la fin, j'ai tenu un certain temps le mot « ain't », puis « no ». J'ai alors retenu ma respiration, sachant que le verdict des spectateurs allait tomber, et j'ai chanté le mot « swing ». Il était à peine formé dans ma bouche que les gens se sont levés en sifflant, hurlant et applaudissant à tout rompre. Il n'y avait plus de doute, j'étais la meilleure. Nous sommes restés dans cette ville 6 semaines au lieu de 3. Et donc c'est quand même, ça montre bien derrière ces mots ou derrière un concert ce qu'il y a comme enjeu à s'affirmer sur scène. Et être une femme noire qui chante avec un orchestre de blanc, ça ne veut pas dire juste épouser la cause de blanc et oublier son histoire, sa condition. Mais ça veut bien dire là que... En appuyant chacun de ces mots, c'est aussi est-ce que moi aussi je vais avoir le droit de swinguer avec vous ou de chanter avec vous ou quelle place je vais avoir dans tout ça.
Oui, merci. Et donc ça c'est quand même cette tournée quand même dans le sud, c'est quand même pas très bien fini parce qu'elle pouvait, elle avait extrêmement de difficultés à aller même dans les restaurants, à pouvoir aller aux toilettes parce que étant donné qu'elle était, enfin, il y a une grosse ségrégation, donc elle n'avait pas du tout accès à ce que son orchestre blanc avait accès. Et donc, elle a dû remonter dans le nord. Et on va maintenant parler un petit peu plus longuement d'une chanson qui est assez, au niveau des textes, qui est quand même assez problématique, parce que ça parle de femmes qui se fait violenter et d'amour masochisme. Et voilà, on vous laisse l'écouter, on en parle après.
My Man.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold, wet, tied to bed. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks. He's no hero out of books. But I love him. Yeah. I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me. But I love him. I don't know why I should. He isn't true. Life is just despair, but I don't care when he takes me in his arms. The world is bright,
What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forevermore.
C'était My Man. Alors, juste pour vous donner un petit extrait des paroles, je vous en lis quelques-unes. Je ne sais pas pourquoi je devrais, il n'est pas sincère et il me bat aussi. Oh mon homme, je l'aime tellement. Il ne saura jamais que ma vie n'est que désespoir, mais je m'en fiche quand il me prend dans ses bras, etc. Donc, les paroles sont assez effroyablement... autosatisfaite de la domination masculine. Et cette chanson a souvent été considérée, en tout cas si on prend ses paroles au pied de la lettre, comme une preuve du masochisme féminin dans les relations amoureuses, voire même comme une preuve du masochisme de Billie Holiday, qui n'a pas été très heureuse en amour. Du coup, en fait, ce à quoi Angela Davis nous rend sensible, c'est que dans le répertoire de Billie Holiday, son interprétation nous convie à une sorte d'analyse critique des relations sociales qui pourrait sembler aller de soi dans les chansons populaires qu'elle chante. Et donc, certes, au premier degré, c'est des paroles caractéristiques d'un point de vue machiste. Et pourtant, des femmes noires de plusieurs générations se sont reconnues dans cette chanson et dans d'autres de Billie Holiday. Donc Angela Davis se demande comment est-ce qu'on peut l'expliquer, puisque c'est des paroles, au niveau des paroles, c'est du côté d'une pure victimisation, et c'est pas ça qui donne à la chanson son impact. Ce qu'elle explique, c'est que la dimension esthétique retravaille le contenu pour en faire une sorte de critique implicite, à la fois parce que la voix de Billie Holiday est tantôt plaintive, tantôt ironique, parce qu'il y a un certain nombre d'hésitations bien placées par rapport au texte dans sa voix, et qui quelque part crée un espace d'incertitude, de mise en doute des paroles, et ça témoigne d'une attitude ambivalente plutôt que d'une sorte d'acceptation de la violence décrite. Le chant de Billie Holiday traverse une grande diversité d'émotions, à la fois tour à tour plaintif, malicieux, emphatique. Et ça souligne les ambivalences et les ambiguïtés de la position des femmes dans les relations amoureuses. Ce qu'explique Angela Davis, c'est que son chant ouvre un espace critique dans lequel il y a pour les femmes la possibilité d'une prise de conscience de soi. Et quelque part, c'est un petit peu le génie de Billie Holiday d'avoir ouvert ces espaces au travers lesquels les femmes peuvent observer de manière critique leur propre vie, comprendre les contradictions sociales qu'elles incarnent et reproduisent. Donc, quelque part, à travers l'esthétique, il y a une perturbation du message littéral des paroles, une transformation des affirmations en questions, et ça crée un espace pour la subjectivation des femmes, un espace émancipateur, bien que, dit Angela Davis, non libéré.
Eh ben, c'était à peu près... D'accord avec la lecture, j'en ai fait à peu près la même lecture en tout cas, et on va donc pouvoir passer à la chanson Strange Fruit au chapitre 8, musique et conscience sociale.
Je déplace le micro. On va vous proposer une lecture à deux voix, du coup des paroles de cette chanson bien connue, qui est Strange Fruit, qui a participé en fait à la notoriété du répertoire de Billie Holiday.
Alors, on vous lit les paroles avant la musique. Southern trees bear a strange fruit.
Les arbres du sud portent un fruit étrange.
Blood on the leaves, blood at the root.
Du sang sur les feuilles, du sang à leurs racines.
Black bodies swinging in the southern breeze.
Des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud.
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Fruits étranges qui pend aux peupliers.
Pastoral scene of the gallant south.
Scène pastorale du sud vaillant.
The bulging eyes and the twisted mouth.
Les yeux exorbités et la bouche tordue.
Scent of magnolia, sweet and fresh.
La douce et fraîche odeur du magnolia.
Then the sudden smell of burning flesh.
Puis soudain, l'odeur de la chair qui brûle.
Here is a fruit from the crows to pluck.
Ce fruit sera cueilli par les corbeaux.
For the rain to gather, for the wind to suck.
Ramassé par la pluie, aspiré par le vent.
For the sun to rot, for the tree to drop.
Pourri par le soleil, lâché par un arbre.
Here is a strange and bitter crop.
C'est là une étrange et amère récolte.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
On vient d'écouter Strange Fruits de Billie Holiday. On est donc là sur le dernier chapitre consacré du coup à une partie de la biographie d'Angela, de Billie Holiday par Angela Davis, qui aborde du coup la question de la musique et de la conscience sociale. Et sont finalement abordés dans ce chapitre justement la réception et les conditions d'émergence de cette chanson, donc dans les années 30.
39.
39, effectivement. Angela Davis l'interprète. Elle a 24 ans à ce moment-là, et effectivement, elle enregistre le morceau en 1939. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, son répertoire était considéré comme léger. Et souvent, la perception qu'on a d'elle, c'était que elle finalement, elle n'avait pas elle n'avait pas du tout compris la signification de la chanson Strange Fruits, qui a été écrite par Lewis Allan. Finalement, elle l'aurait interprétée. Bien sûr, ce sont les paroles d'hommes blancs, experts en musique, enfin en jazz, et ou acteurs à ce moment-là dans la vie notamment du nightclub, le Café Society, où a été interprétée pour la première fois la chanson, qui finalement essaye de minimiser en fait la conscience sociale de Billie Holiday. En essayant, eux, de se valoriser, en disant finalement, si Billie Holiday chantait cette chanson, c'est parce que moi, je l'ai invité à faire ci, ou finalement, je lui ai donné le sens de la chanson, qu'elle n'aurait évidemment pas compris, ce que démonte, pas à pas, justement, Angela Davis, en disant que Billie Holiday avait... évidemment, en tant que femme noire chanteuse, une expérience du racisme structurel et ségrégationniste de la société américaine. On rappelle que à ce moment-là, les lois Jim Crow, séparent les blancs des noirs, et que en tant que chanteuse, comme on l'a expliqué un petit peu ici, elle ne pouvait pas toujours en fait chanter, se mélanger au public. C'était un espace dédié à la scène ou éventuellement dans les coulisses, mais pas ailleurs. Cette chanson finalement fait écho à son propre parcours de femme. Angela Davis évoque aussi la vie de son père, qui était guitariste de jazz, a été sur le front de la Première Guerre mondiale, est rentré aux États-Unis et a contracté une maladie pulmonaire chronique. Lors d'une tournée, il était malade sa bronchite s'est transformée en pneumonie et on a refusé de le soigner dans un hôpital puisqu'il était noir et il en est mort.
Ça, c'est dans le sud, donc c'est parce qu'il était en tournée dans le sud et en raison des lois Jim Crow, il n'a pas été accepté dans les hôpitaux.
Donc voilà, cette chanson Strange Fruits qui évoque en fait les lynchages qui étaient perpétré aux États-Unis, fait écho à la vie de Billie Holiday. Angela Davis essaye finalement de restituer la justesse qu'on a souvent, en tout cas l'interprétation qu'on a souvent fait de Billie Holiday, qui n'avait pas suffisamment d'intelligence, n'était pas assez éduquée pour comprendre le sens de ce qu'elle chantait.
Et un des personnages marquants au début du récit qu'elle donne de sa vie, donc de son autobiographie, c'est justement sa grand-mère, qui était, elle, esclave dans les plantations et qui a eu des enfants avec le propriétaire irlandais à ce moment-là, qui a eu 16 enfants avec le propriétaire. Billie Holiday raconte que toute son enfance, elle l'a passée avec sa grand-mère, jusqu'à l'accompagner. Donc, elle fait le récit du jour de sa mort, donc où elle a passé la nuit avec elle, etc. Et où elle est très marquée de ce personnage qui lui raconte comment c'était dans les plantations. Et ensuite, elle dit, au début des années 30, moi, seule avec ma mère, dans la pauvreté totale, donc plutôt avant d'avoir du succès et de commencer à être chanteuse, elle dit, là, c'était toujours dominé par les Blancs. La grosse différence, c'est qu'à ce moment-là, pour nous, il n'y avait plus de contact possible avec les Blancs. Et qu'elle dit, finalement, il y avait plus de contact, alors sûrement avec l'image de sa grand-mère, son grand-père, donc propriétaire de plantation et esclave noir, mais qu'en tout cas, elle, jusqu'à ce qu'elle ait une vie professionnelle qui fasse qu'elle se retrouve confrontée vraiment avec les Blancs, à ce moment-là, elle vit seule avec sa mère et à par moments d'autres personnes de la famille, mais totalement coupée du monde qui, pour elle, donc, domine tout en étant invisible.
On avait encore des choses à dire, je pense, sur Strange Fruit, notamment pourquoi ça a été spécialement accepté, mais je pense que malheureusement, on n'a pas tout à fait le temps.
En tout cas, on peut terminer sur pour dire que souvent on a reproché à Billie Holiday de ne pas être politisée. Et je crois que justement cette chanson, elle en est la preve. Elle dit dans son autobiographie que c'est son cri de révolte. D'ailleurs, elle voulait donner pour titre principal à son autobiographie A Bitter Crop, qui est en fait les derniers mots de la chanson.
Récolte de Strange Fruits.
Et bon, les éditeurs n'ont pas souhaité adhérer à son souhait. En tout cas, on peut considérer que elle pose en fait les jalons, comme les blueswomen avant elle, d'une contestation sociale aussi par la musique. Et elle laisse en héritage, par ailleurs, à ses successeurs, notamment Nina Simone, Aretha Franklin,
Tracy Chapman, Caballo, ouais.
Et voilà, une chanson qui est de l'ordre de la contestation. Et on vous propose d'écouter Mississippi Goddam, qui est interprétée par Nina Simone, qui aborde aussi la question de lynchage.
Et pendant que Nina Simone chante pour nous dire au revoir, une citation de Billie Holiday, toujours dans son autobiographie, donc Lady Sings the Blues, ou alors maintenant on sait Bitter Crop, Révolte amère. Elle écrit « Je suis rapidement devenue une des esclaves les mieux payées de la région. Je gagnais $1,000 par semaine, mais je n'avais pas plus de liberté que si j'avais cueilli le coton en Virginie. »
Merci, au revoir, bonne soirée.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail. Black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you, me and my people just about do. I've been there, so I know they keep on saying, go slow. That's just the trouble.
Do so.
Washing the windows.
Do so.
Picking the cotton.
Do so.
We're just plain rotten.
Do so.
We're too damn lazy.
Do so.
I'm thinking it's crazy.
Do so.
Communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. My country is full of lies. We are all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble.
So.
Desegregation.
So.
Mass participation.
So.
Unification.
So.
Do things gradually.
So.
We'll bring more trouble.
while the